Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Vous êtes ici, chez vous, bienvenue sur Point d'Orgue. Alors, ces quelques semaines, j'ai fait un voyage et essayé de vous présenter des choses avec des invités. Cécile Capomacio pour vous parler des activités de la maîtrise dans le temps de l'Avent. Et puis, encore plus récemment, avec Emmanuel Pellapra, mon collègue de Saint-Sernin et Notre-Dame-du-Thor, qui vous a parlé de sa façon de confectionner des psaumes. Et maintenant, je vais reprendre le micro tout seul pour vous parler d'un sujet que j'ai à cœur, qui est le sujet de l'orgue. Alors rassurez-vous, je vais inviter d'autres personnes à venir parler de ce sujet passionnant parce que il est vrai qu'à Toulouse, nous avons la chance d'avoir des organistes exceptionnels et donc avec eux, on va pouvoir voir comment ils arrivent à rendre leur art sacré finalement. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout simplement une introduction à l'orgue liturgique. J'avais déjà fait une première émission où j'avais évoqué un petit peu les esthétiques de l'orgue, de sorte à ce qu'on puisse s'habituer au son de cet instrument qui est très 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 particulier. Il y en a de tellement différents. Mais finalement, on ne s'est pas posé la question de savoir comment il pouvait véritablement servir la liturgie. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement une introduction à cette vision des choses, savoir comment l'orgue peut soutenir la liturgie. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais lire, je vais beaucoup lire même d'ailleurs, j'espère que vous me pardonnerez, mais c'est à mon avis essentiel de pouvoir vous montrer que la vision des choses, la vision liturgique des choses et de la musique liturgique, ce n'est pas seulement un peu l'envie ou presque le délire de certains organistes qui voudraient tenir leur chapelle. Non, c'est quelque chose qui a été réfléchi et qui est en fait le fruit d'une longue tradition musicale. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est tout simplement la lecture d'une partie de la charte des organistes qui a été éditée il y a quelques années par la Conférence des évêques de France. Je vais vous lire différents points qui me semblent être assez importants. On va pouvoir ensuite, bien entendu, en discuter, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, et bien sûr l'illustrer musicalement. Alors on va commencer tout simplement par une petite introduction qui évoque l'art musical et la liturgie, je vous la lis. Dans le dialogue permanent entre Dieu et les hommes, dont la liturgie est le lieu, l'homme répond de manière active et, entre autres, par l'expression musicale et le chant. En effet, la musique et le chant permettent d'atteindre un langage sacré, et les paroles rituelles ne trouvent leur forme parfaite que dans l'art musical. Là, je vous saute un petit bout. Donc, le musicien d'église est chargé de favoriser la rencontre du peuple rassemblé avec Dieu. Il ne fait pas qu'apporter une décoration. Il ne sacrifie pas le service de la liturgie à sa propre expression, pardon, mais permet au chant sacré de trouver sa plénitude. C'est dire la haute responsabilité du musicien d'église qui exerce une véritable fonction ministérielle dans le service divin. Il est, à sa façon, serviteur du culte divin puisque la musique sacrée a en effet pour but premier que Dieu soit glorifié et les hommes sanctifiés. Quand on lit ça, on se dit sacré programme. Alors en effet, la musique a un rôle à part. Là, ce qui est mis en évidence, c'est le fait que il y a une forme parfaite qui existe dans l'art musical. Pourquoi? Tout simplement parce que la musique, c'est un peu aussi l'art de l'ineffable. C'est l'art de dire ce qui ne peut pas être dit. C'est un langage tout à fait particulier qui est lié forcément avec la transcendance. Et l'orgue, de par son esthétique, a quelque chose d'imminent à jouer là-dedans. Alors pourquoi cette question de l'orgue? C'est évoqué dans le point qui est juste après. Je ne vais pas vous lire tout le deuxième point, qui s'intitule L'orgue et la liturgie, seulement les trois premiers paragraphes, mais ça permet de se rendre compte de quelque chose. Je vous le lis tout de suite. Depuis le Moyen Âge, l'orgue est devenu un instrument caractéristique de la prière en Occident, plus que n'importe quel autre instrument. De nombreuses formes musicales qui lui sont propres ont trouvé leur source dans l'action liturgique, et des prédécesseurs de Bach jusqu'à nos jours, de nombreux organistes ont découvert le rôle de l'orgue dans leur intuition religieuse ou dans leur vie de croyant. Souvent encore, les organistes ont été des compositeurs prolifiques de motets, cantates, musiques et chants religieux. Comme interprètes et chefs de chœur, ils ont fait monter la louange des hommes vers Dieu. La multiplicité des sons de l'orgue et son aptitude à les mélanger font de lui un instrument dont le caractère communautaire est évident. Il est le symbole vivant de l'unité dans la diversité et appelle toute communauté chrétienne à le devenir. Là, on a touché le cœur du sujet. Je pense que ce dernier paragraphe, il est extraordinaire. Alors, sur l'aspect historique, le fait que les orgues, effectivement, ont fait partie dès le Moyen-Âge de la vie liturgique, c'est quelque chose. Le fait que la musique liturgique se soit beaucoup enrichie du fait des organistes, c'est également un autre point. Mais ce qui est vraiment extraordinaire et ce qui a été bien rendu ici dans l'écrit, c'est effectivement les sons de l'orgue qui sont capables, par leur multiplicité, à mélanger tous ces sons et à rendre un caractère communautaire. Et c'est ça qu'il faut mettre tout à fait en évidence quand on parle de l'orgue. Comme vous le savez peut-être, l'orgue est un instrument qui est très divers. Alors vous avez des orgues qui sont assez petits, qui présentent des palettes sonores plus courtes, évidemment, plus petites, mais vous avez d'un autre côté des orgues bien plus grands, voire gigantesques, on peut penser aux orgues américains par exemple, qui sont capables de faire des sons tout à fait étonnants, tout à fait incroyables, et surtout qui ne peuvent exister qu'avec ce seul instrument qu'est l'orgue. Donc avant de faire cette petite escale musicale pour vous montrer que l'orgue peut servir cette liturgie-là, voilà, j'aimerais juste vous parler de cette complexité de son. Vous allez pouvoir vous en rendre compte avec les extraits que je vais vous proposer. L'orgue possède différents types de sons qui peut rendre par le biais de ce qu'on appelle les registres ou les jeux. Ce sont des sonorités tout à fait différentes. Vous avez peut-être vu la console d'un orgue. La console, c'est là où l'instrumentiste joue. Vous avez des sortes de boutons sur le côté, des tirants de registres qui ont chacun un son différent. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec cet instrument, c'est le fait de pouvoir mélanger afin de créer un langage qui est propre à chaque instrument, à chaque instrumentiste et surtout à chaque liturgie. De la même manière, on ne va pas jouer un Sanctus très fort, très éclatant, de la même manière qu'une méditation beaucoup plus intimiste. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'orgue, c'est que c'est le seul instrument qui est capable d'offrir une palette sonore aussi large et aussi adéquate avec le chant. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est tout simplement d'écouter. Il faut parfois illustrer par l'exemple, hein. Vous savez que j'aime bien faire ça, vous montrer un petit peu de musique. On va d'abord vous présenter une méditation qui a été composée ici par Maurice Duruflé. Je vous en ai déjà parlé longuement, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Donc ici, il s'agit d'une méditation. Donc vous allez pouvoir percevoir donc dans cette méditation, qui est de prime abord un petit peu particulière, mais finalement vous allez voir, c'est une méditation qui est un opus posthume, comment les choses vont se réaliser. Vous avez un début qui interloque, et puis peu à peu les jeux utilisés, les registres utilisés par l'exécutant sont de plus en plus doux et sont évidemment là pour participer au soutien de la prière des fidèles avec beaucoup de douceur. Je vous laisse donc écouter cette méditation. Thank you. voilà pour cette méditation qui se termine tout en douceur, pour laisser place à la prière des fidèles. C'est ça qui est aussi extraordinaire avec cet instrument, c'est qu'au début vous avez un thème qui peut apparaître. Alors, dans quelle mesure a-t-il été écrit? Est-ce que cela correspond à un texte? Souvent les organistes, vous savez, par exemple quand ils improvisent, s'adressent aux fidèles de manière particulière, soit parce qu'ils ont été inspirés par le texte, soit parce qu'ils regardent le grégorien du jour, soit parce qu'ils connaissent un thème de chorale célèbre. Et donc effectivement, on a cette espèce de motif, peut-être un petit peu intrigant au début, et peu à peu cet apaisement qui se fait, bien que le thème soit rappelé de temps à autre pour ne pas perdre l'oreille de l'auditeur. Et là, vous avez effectivement cette conclusion qui laisse place au silence de la prière. Voilà, donc ça, c'est tout à fait ce qu'on peut avoir dans un office liturgique et qui peut être servi par le grand répertoire et l'orgue. Maintenant, peut-être qu'on peut s'attarder à une sonorité de l'orgue qui est bien plus connue, c'est celle du plénum. C'est le plénum, alors déjà rien que quand on entend le nom, on peut à peu près comprendre ce dont il s'agit. Le plénum, c'est la sonorité un petit peu la plus brillante de l'orgue. C'est une sonorité tout à fait particulière, c'est celle qui renvoie finalement à l'imaginaire le plus rapide, hein. Quand on entend l'orgue, c'est quelque chose d'assez triomphant, voilà, c'est presque un peu, il y a le côté un peu grand siècle, etc. Mais c'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est pas seulement du bruit pour du bruit, très 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 loin de là, comme j'ai pu vous le lire dans les extraits de tout à l'heure, il y a dans la sonorité même de l'instrument quelque chose d'intéressant et quelque chose, à mon sens, de sacré. Quand on évoque ce plénum de l'instrument, alors que vous allez entendre tout à l'heure, fort bien exécuté par Michel Chapuis, un organiste extraordinaire, qu'est-ce que peut représenter ce plénum? Souvent, l'organiste, quand il a un assez grand orgue à sa disposition, utilise le plénum pour signifier l'entrée, le début de la messe. C'est le passage de l'extérieur à l'intérieur. C'est comme un espèce de vitrail dans lequel s'illumine toute la complexité du message divin. Et le plénum de l'orgue, c'est ça, c'est l'entrée dans la Jérusalem céleste. C'est quelque chose de grand, de brillant, de lumineux qui élève. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les organistes. Donc là, je vous avais parlé des registres. Donc l'organiste va utiliser les registres les plus clairs, les plus brillants. Donc il y a une sonorité qui est assez aiguë, bien que le pédalier, vous savez qu'on joue aussi de l'orgue avec ses pieds sur certains instruments. Eh bien, il y a quelque chose de plénitude. C'est aussi peut-être pour ça qu'on l'appelle le plénum. Certes, c'est beaucoup de jeux, mais c'est pas un tutti, c'est pas tous les orgues de l'instrument. C'est certains qui sont minutieusement choisis afin d'avoir cette idée de kaléidoscope de son. Comme vous avez un kaléidoscope qui vient de cette rosace qui s'écrase sur les bancs des fidèles, vous avez cette espèce de son qui s'élève et qui donne envie de regarder vers le ciel. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est une improvisation donc de Michel Chapuis, un très grand organiste français, qui a improvisé il y a quelques années sur un orgue extraordinaire à Bordeaux. L'orgue de Dombedos de Sainte-Croix de Bordeaux, pardon. Et cet instrument permet effectivement de bien rendre justice à ce plénum-là. Donc là, Michel Chapuis va improviser sur un magnificat. Donc ce que vous allez avoir, c'est une alternance, c'est quelque chose qui existe aussi dans la musique liturgique, c'est-à-dire que vous allez avoir le magnificat qui va être chanté par une soprano, et ensuite vous allez avoir les réponses de l'organiste avec son instrument qui va venir en quelque sorte magnifier ce chant du magnificat et l'illustrer avec toutes les possibilités de l'instrument. Et c'est ainsi que se termine ce dialogue extraordinaire entre la chanteuse et l'organiste. Vous avez vu que sur un texte aussi incroyable que le Magnificat qui commence comme ça, mon âme exalte le Seigneur, que ça soit chanté comme ça par une soprane et puis envoyé vers le ciel comme ça par l'instrumentiste, vous voyez que finalement que l'orgue a ici toute sa place et il n'y a que cet instrument qui est capable de faire une telle prouesse. Alors je vous ai beaucoup parlé du plénum, vous avez pu entendre d'autres combinaisons par l'organiste, notamment le grand chœur, c'est-à-dire l'emploi des anches qui sont des choses beaucoup plus métalliques. C'est là aussi on peut voir la diversité de l'instrument dans toute sa complexité. Et alors voilà, il me semble que c'est grâce à des instrumentistes comme ça que la prière peut être portée toujours un petit peu plus haut. Voilà, donc là vous avez eu cet aperçu, hein, cette vue d'avion de l'utilité que peut avoir un orgue. Il est vrai qu'aujourd'hui il est toujours beaucoup question d'esthétique, mais je vais essayer de vous faire découvrir le plus possible de choses au niveau de l'orgue, afin que vous puissiez comprendre pourquoi il a toute sa place dans les églises. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons retrouver mon compère, Emmanuel Pellapra, qui va nous parler un petit peu de son orgue, l'orgue de Notre-Dame-du-Thor, église toulousaine qui va fermer pour une magnifique réfection. Et donc, on va un petit peu en profiter pour faire le chant du cygne de cet instrument incroyable et donc vous parler encore une fois de l'orgue et de la musique liturgique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée.